Et avec Stéphane Beaumont, qui est à mes côtés pour le rendez-vous politique qu'il donne chaque lundi aux auditeurs de cette matinale. Bonjour Stéphane, est-ce que vous avez passé un bon week-end ?
Bonjour, très bon, bonjour à toutes et à tous.
Alors ce matin, c'est de Georges Pompidou que vous vouliez nous parler. Il y a 50 ans, je le rappelais tout à l'heure, presque jour pour jour, il était élu président de la République le 15 juin 1969. À quoi ressemblait le paysage politique et plus généralement la France de cette époque ?
Mais c'était la France d'après le temps des barricades, d'après le temps des grèves, d'après le temps de la Révolution introuvable. C'était le temps de la fin des Trente Glorieuses, dont Jean Fourastier parlait avec intérêt. Et c'était également la mise en place d'une nouvelle classe politique dans le sillage de ce qu'on a appelé, ce qu'on appellera longtemps, l'après-gaullisme.
Quelle était la personnalité de Georges Pompidou et son parcours qui était un peu atypique par rapport aux autres hommes politiques de l'époque?
Parcours très atypique puisque de Montboudif à Cajar et du Lot à Paris, il a su grimper toutes les échelles de la panoplie républicaine, de la panoplie de l'enseignement, puisqu'il fut professeur normalien, et puis mettre des requêtes au Conseil d'État, membre du Conseil constitutionnel, et c'est à ce moment-là qu'il devint Premier ministre, sans avoir connu l'onction du suffrage universel, puisqu'il faut attendre 65 pour que Georges Pompidou ait son premier mandat, conseiller municipal de Cajar,
oui,
là où Sagan est enterré.
Et voilà, dans le Lot, un petit salut à nos auditeurs du Lot au passage. Alors, je disais parcours singulier, c'est-à-dire qu'il était à la fois auteur d'une anthologie de la poésie française.
Très belle anthologie d'ailleurs.
Qui fait référence d'ailleurs. Hein. Mais il avait été aussi banquier chez Rothschild.
Comme un autre président que nous avons actuellement, Emmanuel Macron, qui était chez Rothschild avant d'être président de la République, comme quoi la voie des banques est peut-être une des voies les plus royales pour atteindre au sommet de la République. Ce qu'on peut dire avec Denis Tillinac, c'est que Pompidou est une synthèse à la fois du bonheur et de la convivialité d'Henri IV. Il a la rigueur de Richelieu, il a l'industrialisme de Napoléon III, et c'est l'addition de toutes ces qualités qui fait de Georges Pompidou un homme politique qui ne ressemble pas au général de Gaulle et à qui peu, en dehors de Philippe Séguin, ressembleront par la suite.
Alors, quelle a été son action lorsqu'il a gouverné la France ? Donc, il était président pendant 5 ans, puisqu'on sait que la maladie, malheureusement, a écourté son mandat. Quelle a été sa manière de gouverner ? Quelle a été la vision, sa vision de ce que devait devenir la France à l'époque ?
Ben, sa vision de ce que devait devenir la France est une vision qui n'a pas trouvé comme naissance la nouvelle société de Chaban-Delmas, puisque Chaban et lui ne s'entendaient pas. Et malgré la confiance de la Chambre, Chaban a dû partir sur le projet de nouvelle société. Georges Pompidou a essayé d'être le président d'une économie florissante, d'une économie de croissance et d'une économie qui était dans l'innovation. D'ailleurs, les établissements ou les monuments qui ont son nom montrent très bien le parcours de Georges Pompidou. On parle de l'hôpital Georges Pompidou, qui a des meilleurs hôpitaux d'Europe, du centre culturel Beaubourg, centre Georges Pompidou, de la voie Georges Pompidou, sur laquelle Georges Pompidou aurait peut-être été surpris. On fait de la trottinette aujourd'hui et du patin à roulettes, alors qu'à son époque, on essayait de désenclaver la Seine et de permettre une circulation possible. Donc Georges Pompidou, c'est le président de la croissance, le président...
On parlait de France heureuse à l'époque, hein, de la France pompidolienne. Est-ce que c'est un peu fantasmé ou pas, ça?
Non, je crois que il en imposait. Donc, de même qu'on a parlé de la France de M. Falière, on parle de la France de Pompidou, qui était une sorte... de personnages qui a su adapter le radicalisme corrézien ou cantalou au post-gaullisme. C'était une épreuve pas commode à mener. Il l'a menée, on sait pas du tout qu'est-ce que aurait eu comme conséquence un Pompidou qui n'aurait pas été malade.
Voilà. Est-ce qu'il a des héritiers aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une filiation pompidolienne dans la politique française jusqu'à nos jours ?
Disons que Pompidou est plus l'objet de colloques que de disciples, mais ses disciples, il y en a eu un qui était à la fois radical et gaulliste, qui est Philippe Séguin. Mais il faut tout de suite préciser que Pompidou, j'ai peut-être choqué quelques auditeurs, était plus radical, plus républicain radical que gaulliste. Il était gaullien plutôt que gaulliste.
Et bien voilà, Georges Pompidou, donc, qui a été élu il y a 50 ans, presque 50, plus de 50, un peu plus de 50 ans maintenant, le 15 juin 1969, et vous teniez à le saluer. C'était le rendez-vous politique de Stéphane Beaumont.